Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
Enerco Amag numéro 7, saison 2. Aujourd'hui, donc en studio, aux manettes.
Andrea, bonjour tout le monde.
Voilà, l'italien le plus branché de tout le coin.
Branché.
Et donc Guy Peset, membre aussi du COCOP d'Enercoa. Une émission en particulière, on avait fait il n'y a pas longtemps une émission sur les livres, sur les BD. On avait promis de faire une émission aussi sur les fictions, les documentaires qui sont disponibles et que l'on peut voir ou trouver parfois en DVD, je crois, et qui sont sortis récemment, assez récemment, et qui concernent bien sûr la question toujours du changement climatique, du choix énergétique des pays et du monde peut-être, mais de la France aussi plus particulièrement, et puis des choix de vie presque de chacun, puisque c'est une question qui évidemment est très liée.
Oui, et il y en a quand même un point sur lequel on peut se réjouir. Au Brésil, il est revenu aux commandes quelqu'un qui risque d'être un tout petit peu moins destructeur par rapport à...
Donc il y a des choix de peuple que tu évoques politiquement qui vont dans le meilleur sens peut-être pour la planète.
Exact.
Faut l'espérer du moins.
Faut l'espérer du moins.
Vu que le poumon de la planète, on dit que c'était l'Amazonie, donc elle était vraiment mise à mal par les politiques de Bolsonaro.
Tout à fait.
Espérer que ça ira dans un autre sens, justement. Effectivement. Donc, dans cette proposition que je vais faire de titres comme ça sur les films documentaires, on peut revenir peut-être au début d'une réflexion plus large. J'ai revu récemment à la télévision Soleil Vert de Richard Fleischer, un film des années 70, un film de science-fiction, si on peut dire.
À l'époque, c'était de la science-fiction.
Voilà, qui avait beaucoup choqué. Quand même,
oui.
Puisque on peut le dire sans divulguer complètement tout le film, mais le Soleil Vert, c'est effectivement la transformation d'humains que...
Transformation de déchets, on pourrait dire, oui.
Humains, donc, hein, des hommes que l'on amène à la mort pour les transformer en nourriture pour ceux qui restent sur la planète.
Pour les vivants, oui.
Mmh. Oui, voilà, c'est pas très réjouissant. Mais dans sa façon radicale d'envisager le futur, le film posait déjà des problèmes de l'énergie, en particulier les deux héros. Par exemple, pour s'éclairer, ils pédalaient parfois, par moments, pour avoir de la lumière dans leur appartement, parce qu'ils n'étaient pas dans les appartements des très riches. La société était quand même très, très divisée. Et puis donc, comme on l'a dit un peu, la question alimentaire était au centre de la réflexion. Quoi.
Voilà, c'était plutôt crucial, je dirais.
L'énergie et l'alimentation. Deux des grands défis, effectivement, qu'amène aussi le changement climatique à se poser. La résilience alimentaire, tout ça, territoriale, on en parle. Il y a un plan d'alimentation qui se met en place dans pas mal de régions. Et puis, sur le climat, eh bien, il y a Enercoa, mais aussi toutes les tentatives qui sont faites pour développer les énergies renouvelables et sortir un petit peu des énergies fossiles.
Oui, espérons aussi que tous les freins qui étaient un tout petit peu à l'origine, jusqu'à présent, de la lenteur, si on peut appeler comme ça, de la mise en place de ces projets qui devraient servir à sortir du tout carboné, voilà, que ça puisse s'améliorer aussi de ce point de vue-là, parce que ça avance vite, mais pas assez, quoi. Voilà.
Donc, je n'évoquerai pas quand même Avatar 1 et 2, qui sont des fictions aussi, justement, qui posent des problèmes de sorte de fable écologique aussi, hein, sur le respect de la nature, le lien avec la nature, les animaux. Alors, de façon complètement intégrée, hein, puisque c'est du transhumanisme aussi qu'il s'agit. Mais pour les fictions, donc, j'ai un titre à proposer, puisqu'il a été vainqueur d'un festival de films de l'environnement qui s'appelle le Festival Fred sur Toulouse, un film de recherche sur l'environnement et de développement durable. Et ce prix, il a eu aussi ce film, un prix du jury à Cannes. Et il s'appelle donc Les Huit Montagnes. Hein, c'est un film suisse, belge, italien, français. Enfin, une sorte de coproduction, mais c'est de deux auteurs belges, Charlotte van der Merch et Félix van Groningen, qui l'ont réalisé. C'est sur le Val d'Aoste, en gros, la région au nord du Val d'Aoste, peut-être même. Et c'est donc sur l'amitié entre deux personnages qui sont des passionnés de montagne, un qui vient de la ville, un qui vient du territoire, un Italien, un Français. Et c'est leur réflexion que l'on suit sur plusieurs années, je crois depuis l'adolescence jusqu'à l'âge 60 ans pratiquement. Et donc sur plusieurs années, dans ce paysage-là, dans d'autres paysages qu'ils ont parcourus dans le monde, en particulier celui qui est le moins ancré dans le paysage du Val d'Aoste. Et c'est un film donc qui, à travers une fiction, l'histoire d'une belle amitié, réfléchit quand même aussi beaucoup, donne à voir quelque chose de la transformation du paysage de la montagne, par exemple.
Oui, donc la fameuse fonte des neiges due au réchauffement.
Ah, peut-être, par exemple, mais moi je n'ai pas vu encore ce film.
D'accord.
Donc, voilà pour les fictions.
Mais par contre, il a reçu plusieurs prix, si j'ai
oui,
bien compris.
Oui, le prix du jury à Cannes et puis le grand prix là, au Festival du Fred à Toulouse, qui pour nous est souvent une référence dans la région, comme ça. Alors, comme je travaille aussi pour les rencontres à la campagne assez souvent, on est habitué à travailler avec eux.
D'accord.
Et puis, même ils avaient reçu, par exemple, il y a des discussions, des débats, des formations qu'ils font, et par exemple, pour l'association de Sereine Sereine, on avait été invité pour parler des déchets radioactifs, par exemple.
D'accord.
Voilà, c'est soutenu par la région, hein, c'est vraiment une grande, quand même maintenant, oui, une grande association d'informations hein, et de réflexion sur l'environnement.
Bien.
C'est à Toulouse. Pour les docs, eh bien, évidemment, les documentaires, il y en a beaucoup plus hein, quand même qui parlent de ce sujet-là. Alors évidemment, on pense toujours à Demain.
Demain, oui, ce qui a été quand même un tout petit peu à l'origine de notre aventure coopérative.
Oui, donc projeté à Najac et suivi d'un appel à entrer dans cette démarche donc qu'a évoqué dans une émission précédente Michel Delpech aussi hein. Donc cette démarche coopérative et
citoyenne
de réflexion citoyenne oui sur les énergies renouvelables. Donc c'est le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Cette année Cyril Dion donc il a réalisé Animal hein, cette année c'était en 2022 hein. C'est une réflexion alors par contre sur la biodiversité menacée bien sûr mais sur les hommes comme une espèce animale comme les autres si on peut
ouais,
dire
bon, mais en tout cas plus.
Un peu plus voilà et donc un film qui a eu moins d'écho quand même hein, dans la presse, alors que c'est quand même un documentaire qui se tient, qui est de qualité. Donc Animal, de Cyril Dion. Ensuite, y avait d'autres films qui allaient un peu dans le même sens que Demain, mais qui ont été produits dans les années 2020-2021. Un des plus importants, c'était Bigger Than Us, un film français pourtant, hein, de Florence Vasseur. Ou Flore Vasseur d'ailleurs, divers combats de jeunes dans le monde pour réparer, on pourrait dire, les dégâts un peu hein, du monde, mais sur plusieurs thèmes. Alors je me rappelle en particulier, puisque je l'ai vu ce film donc en salle, il y avait quand même du monde qui assistait, on l'a projeté à Rieu-Pérou. Je me rappelle en particulier donc de l'urgence climatique, en particulier du plastique. Voilà, des gens qui luttent maintenant sur un point précis comme ça, le plastique, et ont développé des projets importants. Alors, il y a beaucoup de ces projets venaient de l'Asie, hein, qu'on accuse souvent de produire beaucoup de déchets, mais qui se préoccupent, et à qui on renvoie aussi beaucoup de déchets.
Ah oui, ah oui.
Mais qui se préoccupent de cette question. Il y avait beaucoup la sécurité alimentaire aussi, et donc tout ce qui a rapport à la transformation de l'agriculture, du local. Mais donc il y avait aussi la forêt amazonienne. Et à travers ces témoignages, ben, plusieurs fois, on voyait des solutions qui pouvaient être mises en place. Alors, parfois qu'à petite échelle, encore locale, mais si elles se multiplient, ben, peut-être...
C'est ça, c'est la multiplication qui pourrait avoir de l'effet, effectivement.
Voilà, donc ça, Bigger Than Us, c'était quand même...
Plus grand que nous, hein, ça
oui,
veut
dire. Plus grand que nous, le défi étant, oui, colossal. Hein.
Ouais.
Mais en même temps, donc, c'était des gens qui ne baissaient pas les bras. Donc, de Flore Vasseur, film de 2021, donc, qui se trouve hein, en DVD, qui se téléchargeable aussi, qui doit être sur les plateformes. Une fois que tu sais, alors Une fois que tu sais a été, lui, beaucoup plus relayé par la presse, mais pas tellement finalement par les spectateurs. D'Emmanuel Capelin, c'est aussi un film de 2022, donc qui est sorti l'an dernier, ou 2021, qui est sorti un peu à cheval sur les deux années, 2021-2022. Il avait été présenté aussi, tiens, à ce festival du film environnemental là, à Toulouse. Je crois qu'il avait eu aussi un prix. Alors, c'est un film qui a beaucoup de moyens. C'est une fiction quand même très très réussie du point de vue de la réalisation et qui pose la question vraiment de l'énergie, hein, de l'énergie, des choix énergétiques que va faire l'Europe, que va faire le monde, particulièrement l'Europe, et donc qui nous concerne directement, avec des grands témoins qui commentent les diverses questions posées, et on retrouve dans ces grands témoins des gens dont on a parlé dans l'émission sur les livres, mais que je peux reciter, donc en particulier Pablo Servigne, celui qui avait écrit L'entraide, l'autre loi de la jungle, donc lui toujours sur le travail, sur le local, sur une autre façon d'envisager la solidarité, et donc de freiner les méfaits, on pourrait dire, de la surexploitation des énergies fossiles et du mur dans lequel elle nous envoie. Et bien sûr aussi Jean-Marc Jancovici et son think tank, là, un peu le Shift Project, qui est un peu à la base de ce film. Il était porté beaucoup par Jean-Marc Jancovici, dont on ne cesse finalement de parler. Et j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup dans les médias. Donc Jean-Marc Jancovici, on en avait parlé pour Monde sans fin, sa BD, qui est faite avec Blain.
Qui continue donc, à être bien vendu, apparemment.
Oui, bien vendu, oui. Meilleure vente, disait ce matin à France Inter encore, meilleure vente de l'année 2022 dans les librairies. C'était Datalib, la source. Donc ça dure depuis plus d'un an, et presque un an et demi, et c'était quand même, oui, quelque chose d'important. Alors Jancovici, le Shift Project, là, dans un film vraiment à gros moyens, qui pose les bonnes questions. Après, il apporte des réponses, sont pas toutes, enfin, ils ne sont pas toujours tous d'accord, mais justement, ça a le mérite de bien poser ces problèmes.
Alors, nous allons plonger dans l'eau avec Paolo Conte, Onda Azzurra.
Notte buia, che c'è? Povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda, il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai, la nave una lucciola persa nel blu, ma anch'io ritornerò. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. L'isola, il clima è dolce intorno a me. Ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda, il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi, onda su onda mi sono ambientato. Ormai il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dare. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui con gli occhi chiusi. Ti stringi a lui. Sara. Ma non importa. Onda su onda, onda su onda, onda su onda.
Andrea, un petit commentaire sur ce choix d'une grande qualité.
Et bah, c'est tout simplement parce que Paolo Conte, dans ce morceau, évoque l'idée des paradis, des lieux paradisiaques sur Terre, là où il y a des palmiers, des bambous, des femmes ravissantes, des bananes, etc. Et moi, ça m'a fait penser que quand il a écrit ça, il n'était peut-être pas tout à fait au parvin avec le fait que, avec la montée des eaux, notamment des océans, ces paradis-là ont parti et risquent de disparaître. Voilà, parce que là, ça fait penser aux grands archipels, genre les Seychelles, etc., dont certains atolls sont vraiment à fleur d'eau, et avec la montée prévue dans les années à venir, on ne les verra plus.
Oui.
Voilà.
Bon. Donc, retour sur nos propositions de films, de documentaires à voir et pour pouvoir étayer toutes nos réflexions sur la question climatique, par exemple. Un documentaire positif, par contre, donc sur une expérience particulièrement qui paraissait utopique et qui est ambitieuse, en tout cas, et qui était menée dans le cadre de l'ONU, de l'UNESCO et sur la coopération internationale. The Great Green Wall de Jared Paul Scott, c'est un film de 2020 qui avait aussi eu le grand prix justement du Festival Fred cette année-là et que l'on avait projeté à Rio-Pérou. C'est un film donc qui parle de la réalisation, du début de réalisation de ce projet ambitieux de faire pousser près de 80 000 arbres dans le Sahel, on dira. Pas le désert complètement, c'est au sud du désert.
Oui, en lisière de la zone
du Sénégal jusqu'au sud de l'Éthiopie.
Ah oui, donc ça traverse quasiment toute l'Afrique,
oui. Oui. Et bien sûr, avec des difficultés, mais avec des réflexions intéressantes sur le choix des espèces, sur la manière dont l'importance donc des arbres aussi dans à la fois pour les histoires de CO2, aussi pour lutter contre la désertification progressive de ces territoires-là. Désertification dont on nous parlait beaucoup à un moment, du Sahel et tout ça, et dont on nous parle moins, même si ça continue d'être un véritable problème, puisqu'on le voit avec les migrations aussi.
Oui, je pense qu'on préfère quelque part occulter certains, parce que ça va à l'encontre de tout le discours qu'on entend par ailleurs concernant les efforts pour essayer de résister aux effets dévastateurs des changements climatiques. Et quand même, la réalité est pourtant toujours là.
Oui, donc là vraiment, sur le changement climatique, c'est une réflexion quand même qui dure maintenant depuis plus d'un demi-siècle, qu'on s'est aperçu des dégâts de la civilisation. Bon, en même temps, on s'aperçoit du problème important que vont poser les migrations liées au climat. Ce film donc évoque cette partie-là de la réflexion, ce côté-là, disons, de la réflexion sur le changement climatique. Je pense aussi quand même pouvoir ajouter, il y en a encore un petit peu de temps, pas trop.
Trois minutes, oui.
Oui, deux films un petit peu différents. Un que j'avais vu sur Arte, qui était aussi primé dans des festivals. Alors, je ne sais pas si c'est à Cannes, où il y a un festival parallèle au festival de Cannes de cinéma de fiction, qui s'appelle le cinéma de films écolo et social. Et mais je l'ai vu sur Arte, ça s'appelait « Climat, mon cerveau fait l'autruche » de Raphaël Ithier. Ithier avec H-I-T-I-E-R. Donc ce film de Raphaël Ithier, il était extrêmement intéressant parce qu'il posait la question du changement des modes de vie aussi, lié donc à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sait, donc que le cerveau reçoit comme information, et sur faire l'autruche, donc comment il est difficile effectivement après de changer, de s'adapter, d'essayer de faire autre chose. Alors surtout peut-être individuellement, quand on est renvoyé à sa dépense, à sa situation, et quand on n'est pas pris dans une démarche collective. Et je trouvais ça intéressant justement parce que ça mettait en avant à la fois notre capacité de résilience parfois, de changement, mais aussi souvent de freiner hein, par rapport à ces changements qui seraient nécessaires et de ne pas faire exactement ce que l'on pourrait. Alors, juste, et je trouvais par un contre-coup aussi que d'être pris dans une expérience, une aventure collective comme celle d'Enercoa, c'était quelque chose d'intéressant, justement, pour être moins seul face à ce matraquage, un peu, hein, et à cette réalité aussi.
Ben, je crois qu'on a tous, ça, il faut se l'avouer, quelques difficultés, pour ne pas dire réticences, à quitter ce qu'on pourrait appeler les mauvaises habitudes. Et ben, quand on n'est pas tout seul, ça risque d'être moins difficile, effectivement.
Oui, je pense. Donc c'est intéressant. Et puis il y avait aussi Rupture d'Arthur Gosset, qui était justement ce festival à Cannes, là, festival parallèle, qui avait été primé. C'est un documentaire, Rupture d'Arthur Gosset, donc ce qui doit aussi se trouver sur des plateformes, qui met en scène six jeunes qui ont abandonné un destin tout tracé de grands diplômés, des grandes écoles, en France, je crois, peut-être il y a d'autres pays, je ne me rappelle plus exactement, mais surtout en France, de grandes écoles, donc qui pourraient avoir un avenir tout tracé de polytechniciens ou de centraliens qui arrivent dans le secteur de l'énergie. Ben, il y en a beaucoup, hein, mais qui ne vont pas nécessairement tous au CEA, comme on dit, d'énergie atomique, hein, et qui font des choix de vie radicalement différents. Donc, comme toujours, choix de vie individuel radicalement différent.
Et ben voilà, nous sommes arrivés donc au bout de cette émission. Nous remercions énormément M. Guy Puget, qui nous a fait l'honneur de venir nous rendre visite aujourd'hui. Portez-vous bien, à bientôt.
Au revoir.
CFM. CFM Villefranche.